Demain, ce sera le 15 août, jour férié. Vous le savez déjà, cette fête est destinée à célébrer la Vierge Marie, plus particulièrement l'Assomption de Marie dans la branche de tradition romaine de la chrétienté, et avec certaines différences notables dans la branche également de tradition orthodoxe. La notion d'Assomption, qui renferme l'idée d'élévation au ciel du corps de Marie, est assez difficile à appréhender quant aux circonstances. J'ai beaucoup cherché sur la question, je n'ai pas trouvé pour savoir si c'était de son vivant, juste après sa mort, au moment de sa mort, bref. Et en plus, je le disais, assez variable selon les traditions. Certains lui préfèrent le terme de dormition, mais là n'est pas l'objet de notre réflexion de ce jour. Et bien que j'avais à cœur de traiter de ce thème en cette veille du 15 août, j'ai beaucoup hésité à le faire, et plus encore après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans lequel nous pouvons nous considérer comme frères de persécution au sein de cette famille universelle qu'est le corps de Jésus-Christ. Et donc, si des personnes de tradition catholique ou orthodoxe sont parmi nous, qu'elle soit assurée que l'évocation de ce sujet qui nous divise n'a pour but que de nous permettre d'y voir plus clair les uns et les autres, et surtout les uns vis-à-vis des autres, en reconsidérant, quand l'occasion nous en est donnée, comme aujourd'hui, les raisons pour lesquelles nous pratiquons notre culte comme nous le faisons. En tout cas, il n'est pas dans notre idée de nous définir par le jugement des chrétiens d'autres dénominations. Je disais que le sujet Marie est un sujet qui divise. Je fais exprès de préciser le sujet Marie, afin qu'il soit clair que la personne même de Marie n'est pas cause de division. Je n'ai pratiquement aucune expérience d'échange avec une personne de tradition orthodoxe, et donc je ne peux parler que de mes échanges entre catholiques et protestants. Et je peux même en parler doublement, puisque j'ai été élevé dans la tradition romaine et je me suis considéré comme catholique pratiquant jusqu'à ma rencontre plus personnelle avec Jésus à l'âge de 19 ans dans les milieux protestants que sont le FEU et le GBU. Et j'ai donc vécu ces échanges dans les deux sens. Et j'ai souvent constaté que c'est souvent sur le sujet Marie que ça coince. Même si vous demandez d'ailleurs à un croyant lambda de citer les différences entre catholiques, un non-croyant lambda par contre, pardon, de citer les différences entre catholiques et protestants, il vous dira que les catholiques prient Marie et les protestants non, et peut-être que les prêtres ne peuvent pas se marier et les pasteurs oui. C'est oublier un peu vite que le premier sujet qui a marqué la rupture entre Luther et le pape Léon X portait sur le commerce florissant des indulgences. Mais s'il est vrai que Rome a fini par abandonner ou presque cette pratique, on a assisté au fil des siècles à une intensification du culte marial, du culte des saints en général, et Marie en particulier, à grand renfort de statues, de peintures, dans lequel les protestants ont dénoncé une forme d'idolâtrie. En réaction aux réformateurs, le Concile de Trente, qui a duré 18 ans à partir de l'année 1542, a défini une distinction entre un culte dit de latrie et un culte dit de dulie. Latrie est le mot qu'on trouve est la racine qu'on trouve dans le mot idolâtrie et définit une adoration. Il est réservé à Dieu. Et le Concile de Trente a défini que le culte de Dulie est une vénération, l'invocation d'un saint pour l'intersection. Je pense que ce mot a donné, cette racine a donné le mot adulation. Et pour la Vierge Marie, il a défini le culte d'hyper-Dulie, qui la place au-dessus des autres saints et apôtres comme intercessrice auprès de Dieu. On peut voir ça comme une différence de degré entre ces niveaux de culte, mais les théologiens romains parlent de différences de nature. Selon eux, il y a autant de différences entre l'atrie et du lit qu'entre Dieu et sa créature. À Dieu l'adoration, au saint la vénération et l'invocation. Alors, outre que je trouve que le Concile joue sur les mots, pour ne pas appeler un chat, et en l'occurrence, pour réfuter l'accusation d'idolâtrie, ce qui me dérange le plus dans ces définitions, c'est le mot « culte ». Le mot « culte » n'est pas remis en question par le Concile lui-même, et dans un culte, il y a adoration, c'est ce que nous venons de faire. Dans un culte, il y a invocation. Dans un culte, il y a intercession. Et ce qui fait la différence entre un culte légitime et une idolâtrie, n'est-ce pas celui à qui est adressé notre culte, au Créateur ou à la créature? Quelle est la légitimité de la créature de recevoir un culte de la part de celui qui est son égal, une créature de même rang, de même nature que lui? Or, ce qui caractérise et différencie un culte légitime d'une idolâtrie, c'est la légitimité du destinataire à recevoir ce culte. Ainsi, la valeur essentielle de nos cultes réside moins dans la qualité de nos chants, dans l'élan de notre adoration ou dans la profondeur de nos prières que dans la présence de Dieu parmi nous. S'il n'y a pas de Dieu pour recevoir notre adoration, nos prières, nos intercessions, notre culte, qu'il soit personnel ou en église, n'est qu'un fatras de belles paroles, de beaux chants et de bons sentiments. Ici résonne véritablement la déclaration de Jésus, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous l'avons rappelé ce matin. Oui, Dieu est là. Éric a dit même que Dieu nous a précédés ici, au milieu de nous, alors que nous nous rassemblons en son nom. Marie n'est pas là au milieu de nous. Les saints, les apôtres, ne sont pas là au milieu de nous. Ils ont été là pour leurs contemporains et nous sommes héritiers de ce qu'ils nous ont légué d'enseignements et d'exemples à suivre. Mais Dieu merci, ils sont maintenant auprès du Père et contemplent la gloire du Seigneur qu'ils ont tant attendu de voir dans sa splendeur et pour laquelle ils ont tant donné. Dieu merci, ils sont préservés du triste spectacle de l'humanité en révolte contre Dieu. Ils ne sont en rien sollicités pour intervenir pour nous auprès de lui. On dit habituellement que le culte marial a commencé de s'installer dans le courant du IIIe siècle. Au risque de vous surprendre, je dirais que nous en trouvons les prémices dans les évangiles. Et je vous invite à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 11. Et nous lirons à partir du verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous avez sans doute été surpris de voir à quel niveau j'ai commencé la lecture de ce passage. C'est parce que, alors que seuls les versets 27 et 28 se rapportent à notre sujet, c'est vraiment pour nous imprégner du contexte dans lequel se déroule la scène. Nous sommes là au cours d'un enseignement donné par Jésus sur le combat spirituel. Et cet enseignement fait suite à une polémique qui s'exerce au sujet de Jésus après qu'il ait chassé un démon. Cette polémique, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et donc, nous sommes là au cours d'un enseignement donné par Jésus sur ce thème du combat spirituel contre les puissances démoniaques. Et au cours de cet enseignement, les pensées de cette femme qui s'écrie au milieu de la foule, les pensées de cette femme s'éloignent du cœur du sujet pour se porter sur le bonheur qu'il y aurait à être la mère d'un homme, parlant avec autant d'assurance et d'autorité de choses que tous les autres craignent à affronter ou même seulement à évoquer. Rien que de très humain dans cette attitude d'identification maternelle. Et d'ailleurs, si cette femme est la seule à le crier, peut-être n'est-elle pas la seule à avoir eu cette pensée. Mais revenons à notre texte. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont arrêté. La traduction n'est peut-être pas la plus moderne. Y a-t-il quelque chose de mal dans les paroles de cette femme? Ces propos contiennent-ils une erreur théologique? Personnellement, je n'en vois pas. Que nous considérions Marie comme bien heureuse d'avoir été choisie pour enfanter le Sauveur est tout à fait légitime et elle le reconnaît elle-même. Toutes les générations me diront bien heureuse. Et d'ailleurs, Jésus ne rabroue pas cette femme, en tout cas beaucoup moins qu'il le fait, par exemple, à Marie elle-même lorsqu'elle intervient aux noces de Cana. Je dirais plutôt qu'il recadre le sujet en soulignant l'importance qu'il y a à s'attacher à l'enseignement, à son enseignement, à l'écouter et à le garder. Et donc, si on devait faire un reproche à cette femme, il ne serait pas dans le contenu de ce qu'elle exprime, il serait dans le fait de laisser détourner ses pensées de l'enseignement de Jésus dans ce moment si important où il s'adresse à tous. Et ceci est vraiment corroboré par l'expression « tandis que Jésus parlait ainsi », donc au cœur de son enseignement, et qui accrédite que le cri exprimé par cette femme est un peu comme un cheveu sur la soupe, mais un cheveu trop embarrassant, trop encombrant, qui est un hors-sujet qui détourne trop l'auditoire de l'essentiel pour que ça ne nécessite pas de le recentrer dessus. Je ne peux m'empêcher de voir dans les paroles de Jésus, qui sait d'avance toute chose, une forme de prévention par rapport à tout ce qui a suivi et qui fait l'objet de notre message ce matin, à savoir le culte marial. Que ma mère soit bien heureuse de m'avoir enfanté et allaité, amen, ça ne fait aucun doute. Elle l'a dit elle-même. Mais vous, et ça, c'est maintenant. Bienheureux êtes-vous de porter attention à mes paroles. Bienheureux si vous les retenez et les mettez en pratique. Pour l'heure, les bienheureux, c'est vous qui m'écoutez. Pour l'heure, les bienheureux, c'est vous, lorsque vous sondez les Écritures, lorsque vous vous en nourrissez jour après jour, lorsque vous serrez la parole de Dieu contre votre cœur. Malheureusement, et à l'instar du peuple d'Israël, les descendants des premiers disciples de Jésus se sont peu à peu éloignés de ce sage conseil. Et effectivement, on assiste à partir du IIIe siècle à une imprégnation, de la fin du IIIe siècle à une imprégnation de plus en plus présente du culte marial dans la pratique populaire. Sur la base de quoi? Je ne suis vraiment pas expert sur la question, mais de ce que j'ai pu comprendre, ce serait sur la base d'écrits et de témoignages très contestés dans leur authenticité, et pas seulement par des protestants, mais bien avant eux, et en tout cas très tardifs, contrairement aux textes du Nouveau Testament qui dataient tous du 1er siècle. Je disais que la piété mariale a commencé dans la pratique populaire, et c'est bien ce que nous voyons dans notre texte. Une voix parmi la foule qui se fait probablement le porte-parole de beaucoup d'autres. Et il faut reconnaître que l'Église officielle s'est montrée extrêmement prudente au début à l'égard de ces manifestations. Mais malheureusement, elle a fini par avaliser ce qui était devenu une pratique courante dans les faits. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, regrette un proverbe. C'est un peu comme si, dans l'épisode du veau d'or, Moïse, mis devant le fait accompli et cédant à la pression populaire, avait intégré le culte du veau d'or aux côtés des tablettes de la loi. À la décharge des premiers siècles, l'épisode du veau d'or est un événement extrêmement soudain, alors que la mise en place du culte marial s'est effectuée sur plusieurs siècles, et on sait que c'est toujours beaucoup plus difficile dans ce cas-là, au fur et à mesure que les choses sont admises et installées. Et à tel point que ceux qui prônent l'élimination de ces choses sont rejetés, à l'instar d'un prophète d'Israël comme Jérémie. Mais relisez le chapitre 32 de l'Exode, et vous verrez qu'à l'exception de cette échelle du temps, de nombreuses similitudes se présentent avec notre sujet. Je vous en cite deux. Le problème survient alors que Moïse tarde à redescendre de la montagne. Or, le peuple chrétien est dans l'attente du retour du Christ qui tarde à venir. À Aaron, le grand prêtre, confronté à la déviance de tout un peuple, se fourvoie dans le compromis. L'Église officielle, au lieu de s'en tenir fermement aux enseignements de Jésus et des apôtres, intègre et digère une pratique déjà installée dans la pratique populaire. Et il faut tout le courage et la détermination d'un Moïse face aux explications embarrassées d'Aaron, son propre frère, et malgré l'amour qu'il porte pour le peuple d'Israël, pour lequel il a tout de même abandonné sa position royale en Égypte pour remettre de l'ordre dans le camp et intercéder pour lui auprès de Dieu. Les siècles qui suivent se prolongent dans cette voie. En 433, le concile d'Éphèse proclame Marie, mère de Dieu, dans la ville même où avait prospéré le culte de la déesse Diane. En quoi les maçons qui ont construit le temple de Salomon, que Dieu a habité, tout comme il a habité le corps de Jésus, en quoi ces constructeurs pourraient-ils être qualifiés de constructeurs de Dieu? Au cours du 5e siècle, la croyance en l'Assomption de Marie s'installe dans la piété populaire sans pour autant être officialisée. Au XIIe siècle, et bien qu'on en trouve des traces dans les siècles qui précèdent, on assiste à... C'est la théologie de l'Immaculée Conception qui prend une véritable ampleur pour être promulguée en dogme en 1854. Ce dogme ne concerne pas seulement la naissance de Jésus, mais celle de Marie. Non seulement Marie aurait vécu sans commettre de péché, mais elle aurait été conçue sans péché, dans une sorte d'analogie avec Jésus. Et c'est en 1950, il y a moins de 70 ans, que l'Église romaine a promulgué le dogme de l'Assomption, alors qu'une encyclique de 1954 la proclame reine du ciel. Une bien triste référence à une déesse dénoncée par Jérémie, probablement l'Astarté des Sidoniens. On le voit, l'histoire montre une progression lente au cours de laquelle les choses ne prennent un caractère officiel qu'après un certain retard, une fois qu'elles sont installées dans la pratique courante. Alors, que Marie soit montée au ciel, c'est bien possible. C'est bien arrivé à un autre mortel, comme Élie et Enoch, selon trop de probabilité, mais contrairement à eux, ça n'est pas mentionné dans les Écritures saintes. Et les autres écrits qu'il évoque semblent bien fantaisistes, tout comme peut-être on pourrait le comparer aujourd'hui à ce que nous lisons dans le Da Vinci Code. Pourquoi ne sort-il qu'au moment où on en a besoin pour légitimer le fait? Comment tant de générations ont pu vivre une foi authentique sans en avoir connaissance, à commencer par les apôtres? Si on considère le seul dogme de l'Assomption, promulgué en 1950, ce sont près de 80 générations qui se sont succédées privées de connaître ce qu'on nous dit être assez important pour que sa remise en question ne puisse être tolérée par un fidèle. Je vous lis ici l'énoncé du dogme. L'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire céleste. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement mettre en doute ce qui a été défini par nous, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. C'est tellement important, mais c'est seulement en 1950, 80 générations plus tard, qu'on le définit ainsi. Et quand bien même cette assomption se serait produite, et quand bien même des sources assez fiables en attesteraient, cela ne légitimerait en aucun cas le culte adressé à Marie, pas plus que nous ne le faisons pour Élie ou pour Enoch. Et plus encore qu'un culte, il y a dans la théologie romaine, et seulement en Marie et non chez les autres saints et les apôtres, l'idée qu'elle serait médiatrice pour nous auprès de Jésus, qu'elle serait coopérante avec le Christ à notre salut, co-rédemptrice, selon une position très défendue au Concile Vatican II, mais qui fort heureusement n'a pas été retenue en ces termes. Cependant, l'idée transpire dans la prière de « Je vous salue Marie », pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Et cette formulation « Marie pleine de grâce » est censée reprendre la parole de l'ange Gabriel quand il vient lui annoncer qu'elle enfantera le Sauveur. Sauf qu'elle est vraiment déformée pour présenter une Marie source de grâce, dispensatrice de la grâce divine, alors que le texte grec ne comporte aucune ambiguïté. Il s'agit d'une grâce reçue et non d'une grâce offerte, donnée par Marie. Oui, non, d'une grâce donnée par Marie, apportée par Marie. Il s'agit de la grâce qui lui est faite d'enfanter le Sauveur de l'humanité. Et donc, une traduction plus exacte, « Je te salue, Marie, à toi à qui une grâce a été faite. » Nous n'avons ici effleuré que l'aspect théologique de ce sujet de division entre nos deux traditions est vraiment effleuré, et il en existe de nombreux autres. Mais penchons-nous maintenant sur son aspect humain et sur son incidence sur nos relations. Je l'ai plus ou moins abordé. Le culte marial est une chose désormais installée dans la tradition de l'Église romaine, et ce, depuis des siècles. Ceux qui naissent aujourd'hui dans ce contexte naissent avec ça. Et ceux d'entre eux qui cherchent à avancer avec Dieu avancent avec ce bagage. C'était mon cas. Je pense qu'il est extrêmement difficile, c'est mon vécu, dans ce contexte, de remettre en question ce bagage parce qu'il fait partie d'un tout et que jeter ce bagage, c'est peut-être prendre le risque de devoir jeter le tout. Mais si j'en juge par les propos tenus par des protestants, tant lors de mes premiers échanges avec eux que jusque très récemment, je pense aussi qu'il est extrêmement difficile pour un protestant qui porte de par sa naissance un autre bagage de comprendre pourquoi la pratique du culte marial est aussi difficile à remettre en question. Le bagage du protestant, ce sont les Écritures et les Écritures seules. Toute l'histoire est celle que nous avons effleurée aujourd'hui en est l'illustration, celle d'Israël, comme celle de l'Église. Cette histoire le porte à la plus grande méfiance à l'égard de tout ce qui s'écarte des Écritures. Pour nous, les Écritures expliquent les Écritures, et c'est ailleurs dans les Écritures que nous cherchons l'explication d'un passage qui nous pose problème. Or, et c'est là une grande différence, la théologie romaine s'appuie certes sur les Écritures, mais également sur sa tradition d'Église. Je pense qu'il serait malhonnête de prétendre que nous sommes totalement préservés de cela dans les faits et que notre tradition ne pèse pas quelque peu sur notre théologie. Cependant, Rome assume et revendique officiellement cette position. Elle va même encore plus loin, puisqu'elle affirme que c'est à la lumière de la tradition de l'Église que peuvent être interprétées les Écritures. Il en résulte pour le fidèle catholique que sa source théologique est extrêmement vaste et qu'il éprouverait des difficultés à différencier, s'il le voulait, ce qui relève des Écritures de ce qui relève de la tradition. Et je dis s'il le voulait, car généralement, il n'en voit pas la nécessité, ce n'est pas dans son ADN comme cela est dans le nôtre. Et quand bien même il ne voudrait, il n'est pas exercé à recourir aux Écritures comme nous le sommes, ni à en reconnaître la prévalence sur la tradition. Pour être plus concret, je citerai un exemple personnel. Dans les débats animés que j'ai eus avec mon père, à propos de Marie, entre autres, et constatant que seule la Bible faisait désormais pour moi autorité, mon père a cité le passage où Jésus dit à Marie, à propos de Jean, « Voilà ton fils ». Et où il dit à Jean, « Voilà ta mère ». Et il m'a expliqué que là était le fondement biblique de la théologie selon laquelle Marie est la mère de tous les hommes, serait la mère de tous les hommes. Objectivement, y a-t-il dans ce seul passage de quoi étayer ce principe ? Y a-t-il même de quoi l'étayer dans l'ensemble des passages bibliques qui tournent autour de Marie ? Eh bien, croyez-moi ou pas, mais j'ai été ébranlé par un tel argument. À travers le prisme déformant de mon bagage culturel, l'argument me semblait recevable. Et donc, si vous n'avez pas un culte marial déjà en place, vous ne trouvez pas dans la Bible de quoi le construire. Et de fait, il a pris corps à partir d'éléments extra-bibliques. Les théologiens romains le reconnaissent eux-mêmes. La Bible parle peu de Marie. Mais si ce culte marial est déjà installé, les passages qui en parlent vous semblent le confirmer. Il vous est extrêmement difficile, dans ce contexte, de voir la personne de Marie dans la stricte objectivité du texte, et autrement qu'à travers le prisme déformant de votre tradition. Et bien entendu, cela est valable pour tout autre sujet. C'est peut-être pour cela qu'il a fallu attendre des siècles et un Martin Luther pugnace, c'est le moins qu'on puisse dire, et déterminé pour discerner le problème. Une autre tradition pour laquelle un fervent catholique s'insurgera lorsqu'il entendra parler d'idolâtrie à propos du culte marial, c'est parce que, généralement, ce terme d'idolâtrie s'applique à l'adoration de divinités qui n'existent que dans l'esprit de ceux qui les ont créées, que dans la pensée des hommes. Et c'est effectivement une différence notable avec l'idolâtrie qui est dénoncée tout au long de l'Ancien Testament, notamment par Ésaïe, quand il décrit comment l'ouvrier forme une idole à partir d'un morceau de bois et qui se prosterne devant. Et effectivement, on est là au comble de l'idolâtrie avec cet ouvrier créateur qui se prosterne devant sa créature au mépris absolu de celui qu'il a créé, du Dieu qu'il a créé et lui a donné la vie alors que lui était incapable de donner la vie à son idole à tel point qu'il a dû la clouer avec un clou sur son socle pour pas qu'elle tombe. Concernant Marie et les autres saints, il s'agit de personnes ayant existé et bien entendu ayant mené une vie sanctifiée. Et donc lorsque nous employons ce terme d'idolâtrie pour qualifier le culte les concernant, c'est bien souvent perçu comme un manque de respect à leur égard. Je l'ai dit en définition, il faut bien comprendre que c'est sur la légitimité du culte que nous nous prononçons, que nous débattons, et non sur la personne à qui ce culte s'adresse. Les protestants n'ont rien contre la personne de Marie, heureusement. Dans les échanges de personne à personne, je préfère donc toujours une approche qui recentre les discussions sur l'autorité des Écritures en prenant le temps d'en expliquer la raison. Je suis toujours assez gêné de voir pointer du doigt la pratique du culte marial. C'est de l'idolâtrie, c'est un péché. Sommes-nous d'ailleurs ici tellement exempts de péché que nous pouvons nous le permettre? La victoire sur le péché n'a de valeur que lorsque nous sommes tentés. Et avouons-le, l'idolâtrie mariale est un péché qui ne nous tente pas beaucoup. Cette tentation n'est pas dans notre ADN. Contrairement à d'autres auxquels nous cédons beaucoup plus facilement et sur lesquels nous portons néanmoins un regard pour le moins accommodant. L'exemple concret que je vais citer m'a été soufflé par Eric. Et donc, si vous piquez au vif, vous vous arrangez avec lui. La division est aussi un péché, et même un péché grave, à en croire l'apôtre Paul. C'est marrant, elle apparaît même dans la liste des choses hautement condamnables de Galates 5, aux côtés même de l'idolâtrie. Interrogez le catholique sur le morcellement des églises protestantes. À lui qui fait de l'unité de l'Église, de sa catholicité, c'est-à-dire de son universalité, une valeur essentielle. Cette désinvolture que nous avons à passer d'une Église à l'autre, à nous en tenir éloignés, parfois de longues périodes, parce que telle ou telle chose entendue ne nous a pas plu. Bien sûr, je plaisantais quand je vous disais de vous arranger avec Eric, j'aime bien le taquiner. J'assume les propos que je tiens ici, et si l'un de ces propos vous asticote, que vous soyez catholique ou protestant, ou de toute autre confession d'ailleurs, venez me trouver à la fin du culte. Et Marie dans tout ça? Marie traverse les évangiles à pas feutrés. Elle est là quand Dieu l'appelle. Mieux, elle s'en réjouit, là où tant d'autres partent en courant. Cette femme qui la déclare bienheureuse, c'est ce que nous avons entendu, c'est crier au milieu de la foule, bienheureuse la femme qui t'a enfantée. Cette femme qui la déclare bienheureuse est-elle d'accord de porter l'opprobre de se retrouver enceinte hors mariage? Est-elle d'accord de voir son fils lui échapper, si jeune, pour une mission qu'elle a du mal à comprendre? Est-elle d'accord de le voir entouré d'une bande de pouilleux, sans famille à lui, sans maison à lui? Est-elle d'accord de le voir harcelé jour et nuit par la souffrance humaine, quand ce n'est pas par l'adversité et la ruse? Est-elle d'accord de le laisser supporter en silence les insultes, les crachats, les coups, pour finir par cette mort infâme réservée aux malfaiteurs de la pire espèce, cette crucifixion que les Romains eux-mêmes ont fini par abolir tellement ils l'ont jugée inhumaine? Et comme si ça ne suffisait pas, est-elle encore d'accord de se joindre dans la chambre haute aux apôtres et disciples qui ont abandonné et même renier son fils, et qui maintenant prennent la parole en son nom? Est-elle ensuite d'accord, enfin, de disparaître à tout jamais des Écritures pour laisser à Dieu seul la gloire? Et je crois que le passage qui nous permet d'en connaître le plus sur Marie est ce que nous appelons le cantique de Marie, au moment où, enceinte de Jésus, elle rend visite à sa parente Élisabeth, enceinte, elle, de Jean-Baptiste. Et donc, revenons à l'évangile de Luc, au chapitre 1, et nous allons lire ce que nous appelons le cantique de Marie, à partir du verset 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité, pour toujours. Ce cantique nous dresse le portrait d'une femme humble, non seulement dans sa condition, mais surtout dans son cœur. Marie sait que, comme tout homme, elle a besoin d'un sauveur. Nous avons là une juive pleinement solidaire de son peuple dans son besoin d'un sauveur miséricordieux. Elle accueille la grâce d'enfanter le sauveur comme un honneur qui lui échoit sans qu'elle l'ait mérité, une pure grâce de Dieu. Elle se considère avec lucidité, sans fausse modestie, comme une servante indigne, ce qu'elle est, ce que nous sommes. Face à une personne ayant élevé l'humilité à un degré aussi haut, je frémis à la pensée de la consternation qui aurait été la sienne si elle avait su être l'objet, avoir été ensuite l'objet d'une telle adulation et cause d'autant de divisions et de sang versé dans l'Église. Nous n'avons pas là, pour autant, une personnalité naïve. Elle est consciente de l'orgueil des puissants, en souffre probablement, mais elle sait attendre le temps de Dieu qui mettra fin à leur domination. Marie connaît très bien les Écritures, qu'elle cite abondamment dans ce court cantique, en particulier les psaumes. Elle évoque la toute-puissance de Dieu, ses hauts faits, sa sainteté, sa miséricorde, sa justice, ses promesses. Ses pensées sont résolument plus tournées vers Dieu que vers elle-même, malgré la chose incroyable qui lui arrive. Elle ne se réjouit pas seulement pour elle-même, alors que ses valeurs l'y inciteraient, là où d'autres y verraient une opprobre, mais au contraire se réjouit de la délivrance imminente de son peuple. Et dans la part légitime où on la voit se réjouir pour elle-même, il est évident que la grâce qui lui est faite est cause de sa joie, et non pas l'idée d'un quelconque mérite ou dignité personnelle que Dieu lui aurait reconnu, et encore moins, bien sûr, d'un statut spécial comme l'Immaculée Conception réservée à elle seule. Voilà qui est Marie. Le chapitre 2 évoque de nouveau ses dispositions intérieures lorsque les bergers rendent visite à l'enfant Jésus qui vient de naître, racontant comment un ange leur est apparu et où le trouver. Pour annoncer la nouvelle de la naissance de Jésus et où le trouver. Il nous y est dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Et même après l'inquiétude pour avoir cherché Jésus pendant plus de 3 jours dans tout Jérusalem, et après l'incompréhension de sa réponse pour s'être entretenu avec les docteurs de la loi, alors qu'il n'avait que 12 ans, nous lisons encore que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Il ne nous en sera pas dit beaucoup plus sur ce que furent ses pensées tout au long de sa vie, pas même lorsque Siméon prophétise sur le destin de son fils, lors de sa présentation au temple et sur l'épée qui lui transpercera l'âme, pas même au moment où cette prophétie s'accomplira à Golgotha, mais je peux imaginer que ces dispositions intérieures se situent en droit de fil de celles que nous venons de lire, même en ces instants dramatiques. Voilà quel est le modèle donné par Marie aujourd'hui. Un modèle de soumission, de foi, de confiance en Dieu. Et entre autres, mais je suis persuadé que chacun peut tirer quelque chose de cela pour lui-même, de ce cantique. J'étais frappé ce matin par les chants que nous avons chantés, comment ils cadraient bien avec ce cantique de Marie. Donc chacun peut en tirer quelque chose pour lui-même, le modèle qu'elle nous a donné, un modèle que nous pouvons légitimement honorer comme tout autre serviteur fidèle du Seigneur, mais avant tout, et c'est le propre d'un modèle, que nous pouvons imiter. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, nous dit Jésus. Il aurait presque pu ajouter, comme le fait ma mère. Aux hommes et aux femmes, les honneurs qui leur sont dus. Et parmi eux, Marie a droit à une bonne part. Paul dit aux Philippiens à propos d'Épaphrodite, son compagnon d'œuvre qui a frôlé la mort dans le service du Seigneur, honorez de tels hommes. Mais le plus grand honneur que nous pouvons leur faire, c'est de les imiter. Répondant ainsi à cette invitation pressante et répétée de ce même Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Quant à la gloire, c'est à Dieu seul qu'elle revient. Amen.